L'herbe sèche et l'aigle plane. Lisons Ésaïe 40, versets 6 à 8 et 29 à 31. Je lis dans la version de la Nouvelle Bible Second. Quelqu'un dit : Crie ! On répond : Que crierai-je ? Toute chair est de l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur passe dessus. Vraiment, le peuple est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Il donne de la force à celui qui est épuisé, il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents s'épuisent, ils se fatiguent, les jeunes gens finissent par trébucher. Mais ceux qui espèrent le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne s'épuisent pas. Ces versets d'Ésaïe sont écrits au 8e siècle, ou peut-être au 6e siècle, avant Jésus-Christ. Ésaïe est le grand prophète de Jérusalem, celui dont le livre est le plus long et le plus attesté. On a retrouvé des rouleaux entiers de son texte dans les grottes de Qumran, parmi les fameux manuscrits de la Mer Morte en 1947. Le chapitre 40, où se trouvent nos versets, est le début de la deuxième partie du livre. Ce qu'on appelle aussi le second Ésaïe dans certains courants théologiques. Cette seconde partie couvre les chapitres 40 à 55, et au chapitre 56 débute la troisième partie, ou le troisième Ésaïe. Cette deuxième partie parle clairement du peuple déporté, alors que la première parlait du règne des rois du 8e siècle en Juda, Ozias, Jotham, Akaz et Ézéchias. Nous sommes donc 200 ans après, et Juda, en tant que royaume, a été vaincu, et toute sa population jeune déportée par le vainqueur. Je vous renvoie à ma première méditation, si je t'oublie, Jérusalem. Le prophète Ésaïe, ou ses disciples, si on croit qu'il y a ici trois livres de trois époques réunis, délivre un message de consolation et d'espérance à ce peuple vaincu et loin de chez lui. C'est dans ce deuxième livre que se trouvent les quatre chants du serviteur qui, pour les chrétiens, annonçaient le Messie Jésus-Christ. Mais revenons à nos textes. Les versets choisis nous permettent de recevoir deux enseignements de la part de Dieu, pour nous aujourd'hui, comme pour des millions de juifs et de chrétiens qui les ont reçus auparavant au cours des siècles. D'abord, l'herbe et sa fleur. En ce moment de printemps, de mon bureau où j'écris ces lignes, je peux admirer tout un lit de pâquerettes, très précoce cette année. D'autres fleurs se joignent à ces modestes fleurs de l'herbe, celles du cerisier ou des iris. Le prophète nous dit que nous sommes comme cette herbe et ces pâquerettes. Leur beauté est de courte durée, nous le savons. Un matin, quand j'ouvrirai les volets, elles ne seront plus là, disparues. Notre vie est à l'image de cette petite fleur, belle mais fragile. Qu'est-ce que notre vie en face de la durée des temps de l'univers, quelle que soit l'hypothèse que l'on en retienne? Les psaumes contiennent de nombreux passages qui rappellent cette fugacité de l'homme. Par exemple, le psaume 8, au verset 4. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et dans le plus vieux livre de l'Ancien Testament, nous trouvons ce cri de Job adressé à Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Pour que tu te soucies de lui, pour que tu t'occupes de lui chaque matin. Au chapitre 7, versets 17 et 18 de Job. Assurément, nous sommes aussi passagers que l'herbe des champs. Les cimetières sont remplis de gens importants et indispensables. Aujourd'hui ici, et demain, séché et disparu. En ces jours de drame, nous sommes ahuris. Nous qui n'avons pas connu les boucheries de 14-18 ou les camps de 39-45, nous sommes ahuris par l'image des camions emportant les chargements de cercueils en Italie ou à New York. Cercueils qui seront inhumés ou incinérés dans la solitude anonyme du chêne ou du sapin selon les moyens et les disponibilités du moment. Je viens de voir une image où un prêtre italien, à Bergame, bénissait à la chaîne tout un gymnase de cercueils avant leur chargement pour l'éternel repos, comme dit le cliché de langage. Exactement les mêmes images qu'à Verdun en 1916. Mais cette fois, l'ennemi n'est pas l'Allemand, mais un microscopique organisme qui n'a qu'une seule volonté, vivre en nous, ce qui nous fait mourir. Sans doute, l'homme et la femme de 2020 ont-ils besoin de redécouvrir notre condition de mortel, alors que nos sociétés font tout pour occulter la mort, qui pourrait ralentir l'hédonisme et la consommation, valeurs centrales de nos sociétés matérialistes. Comme au temps d'Isaïe ou de Jésus, nous ne sommes rien de plus à l'échelle de l'univers qu'une pâquerette. Mais, pour parodier le grand Pascal, une pâquerette pensante. Et la fin du verset 8 est là pour dissiper l'angoisse. Mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Pourquoi donc opposer l'éternité de la parole à la fragilité de notre vie? Parce que le seul salut face à notre condition est dans les promesses de la parole. Ce n'est pas ici le moment de les rappeler, ces promesses. Ce serait trop long, tant elles sont nombreuses. Mais rappelons-nous que la mort a été vaincue au calvaire. Paul a pu s'écrier « Ô mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ?» dans 1 Corinthiens 15, 55, en reprenant le prophète Osée. Il nous faut à la fois accepter notre destin de brin d'herbe et l'espérance folle des promesses de la parole, et garder sans cesse les deux côte à côte. Passons maintenant à l'aigle. Des versets 29 à 31. Après un constat qui pourrait être effrayant pour celui qui n'a ni la foi ni la force morale d'affronter la mortalité de l'homme, vient un formidable encouragement, mais là encore tout en contraste. Que dit Ésaïe ? L'exact contraire du discours normal du monde. Les adolescents et les jeunes s'épuisent et tombent. Ceux qui se croient insubmersibles se révèlent eux aussi fragiles et fatigables. Le prophète montre alors au verset 31 que le vrai critère spirituel est ceux qui espèrent le Seigneur. Il y a alors un glissement voulu du domaine purement biologique et matériel au domaine élargi du spirituel, lequel ne nie en rien le corporel. L'âge n'est plus du tout le critère valable, comme les spécialistes l'avaient laissé entendre au début de cette pandémie du Covid-19, en faisant des plus âgés des victimes attendues. Ce n'est pas la logique de Dieu. L'homme qui croit reçoit plusieurs promesses. Il renouvelle ses forces, ce qui veut dire qu'il a donc du repos, car seul le repos permet le renouvellement. Il s'élève comme l'aigle. Il voit alors les choses de haut, il domine la situation, il peut prendre du recul, il s'extirpe de l'ordinaire. Il voit tout petit ce qui semble énorme au sol. Il court, la bonne course selon Paul, mais ne se fatigue pas, car il a les bonnes vitamines, les énergies renouvelables. Il marche sur le bon chemin s'il n'est plus en âge de courir et ne brûle pas toute sa vigueur, mais il a une direction et un but. Nous pouvons alors chanter et prier le psaume 103 qui confirme tout ce que nous venons de dire. Je lis seulement les versets 5 à 8 et 15 à 18, mais relisez le psaume en entier, car il est vraiment magnifique. Que je bénisse le Seigneur, verset 5, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur agit pour la justice, il défend le droit de tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux Israélites. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Mais la fidélité du Seigneur est depuis toujours, et pour toujours, en faveur de ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance, se souviennent de ses directives afin de les suivre. Quel beau message d'espérance! Nous sommes à la fois l'herbe et l'aigle par la grâce du Seigneur. Amen.